5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Chers amis, bonjour et bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard, bonjour à tous.
Alors cette émission Orion, chemin de l'espace, qui est la dernière de notre saison 2016-2017, hein, c'est-à-dire avant les vacances des uns et des autres, est consacrée à l'actualité du ciel et de l'espace, comme chaque mois. Alors ce mois-ci, dans l'actualité, il y a d'abord le retour de Thomas Pesquet, bien sûr on en a beaucoup parlé, mais il y a pas mal d'autres événements et même innovants, hein, des événements un peu innovants dans les lancements, dans les fusées.
Ça bouge beaucoup au-dessus de nos têtes.
Absolument. Alors le retour de Thomas Pesquet, bien sûr on en a beaucoup parlé, il a été très médiatisé en France. Hein, on peut dire ça. On a tous vu son atterrissage. Je crois qu'il a été un peu plus mouvementé que ce que l'on en a dit.
Alors bon, il y a beaucoup de Français qui ont pu suivre cet événement, bien sûr parce que nous avions Thomas Pesquet, mais régulièrement nous avons des retours de Soyouz dans les steppes du Kazakhstan. Et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe un petit peu plus mouvementé, ce qui a été le cas pour Thomas Pesquet.
Alors mouvementé en quoi, Jean-Michel?
Eh bien, puisque donc la capsule Soyouz, au bout de son parachute, s'est posée un petit peu rudement, on va dire, et puis il y avait du vent, donc elle s'est couchée. Des fois, le parachute traîne un petit peu la capsule. Comme il l'a dit lui-même, c'est un petit carambolage, un petit choc que vous voyez.
Il a parlé de montagne russe, je crois.
Oui, bon, bien sûr.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette capsule doit descendre au bout de ce grand parachute.
1000 mètres carrés de parachute.
Voilà. Et au tout dernier moment, il doit être, bien horizontal.
Oui.
Et là, des rétrofusées.
Voilà.
Là, il y a eu un coup de vent, je crois qu'il est un peu de travers.
Voilà, puisqu'on est... Alors, les vitesses, hein, j'ai eu 27, 22, 12, voilà, en kilomètre heure. Hein. Mais je pense qu'aux alentours de 20 kilomètres heure, c'est la vitesse qui correspond le mieux à cette arrivée.
Voilà, en tout cas, il est bien revenu, en forme. Enfin bon, et on a bien vu qu'il a fallu quelques heures, quelques jours même peut-être pour se remettre.
Comme tous, voilà.
Ça souligne quand même le côté exceptionnel. On a l'air de parler de routine. Enfin, on s'habitue, les cosmonautes, la Lune... l'ISS, mais quand même, ça reste quand même l'aventure. C'était alors médiatisé en France, bien sûr, d'abord parce que sa personnalité, a beaucoup plu aux enfants, à tout le monde. C'est un très bon communicant. Il a le sens du partage aussi, on peut le dire. Ses photos ont été reprises par un peu tout le monde. Et puis aussi parce que c'était le dernier depuis longtemps, le dernier.
Léopold Dehaerts.
Léopold Dehaerts.
Il y a une dizaine d'années, oui. Donc Léopold Dehaerts. Donc au Club Orion, nous avons eu la chance de rencontrer, de passer une journée avec lui. Est aussi un être exceptionnel. Alors, la mission de Léopold Dehaerts, c'est qu'elle était beaucoup plus courte, hein, parce que là, Léopold Dehaerts a fait plusieurs missions, mais avec un total de 68 jours, or que Thomas Pesquet a fait 6 mois d'un coup, et voilà. ça change la donne. Hein.
On rappelle effectivement 196 jours, je crois,
dans
l'espace. Alors, on va parvenir sur toutes les expériences qu'il a menées. Effectivement, c'est avant tout un cobaye intelligent, et j'allais dire très, très efficace, d'après ce
Alors,
que j'ai compris.
Alors, je veux dire, ils sont tous cobayes, hein, donc depuis les premiers qui sont partis jusqu'au suivant. Donc ils ont tous expériences médicales, des expériences scientifiques, des expériences technologiques, et puis bien sûr leur suivi médical personnel est suivi du sol et partagé aussi avec les différentes nations qui sont dans l'ISS.
Voilà, il a beaucoup insisté sur le travail de l'équipe au sol, des équipes au sol, beaucoup de monde au sol pour un seul dans l'espace. Il a beaucoup rappelé ce message-là. Effectivement, sa mission, qui était la mission Proxima, qui est la mission Proxima, parce qu'il y a un avant ISS, il y a un pendant l'ISS, et puis
il y a un après.
Donc la mission continue.
La mission continue. Donc toutes les expériences qui ont été faites dans l'ISS sont en cours d'analyse, de traitement, hein, parce que on a des recueils de données et puis différents scientifiques. Parce que si on est biologie, c'est traité par la biologie. Si on a d'autres sciences, c'est traité par les autres sciences,
donc,
etc.
Donc on ne va pas passer. On en a déjà évoqué un certain nombre dans cette émission au cours de la saison, il y a des expériences, j'allais dire, de physique pure, on peut le dire, et puis il y a des expériences qui sont liées, j'allais dire, à la recherche médicale.
Voilà.
Et sur les recherches médicales, on en a évoqué quelques-unes. Il y a une expérience d'ailleurs qui est marquante, on n'en a pas parlé, c'est l'expérience des jumeaux, là, les jumeaux de l'espace.
Alors, les jumeaux Kelly, donc Scott Kelly et Mark Kelly, qui donc il y a un peu plus d'un an, Scott Kelly a passé donc un an dans l'espace avec aussi un collègue russe, hein, Mikhail Kourmenko, donc ils sont restés pratiquement une année là-haut. Alors, la particularité de Scott Kelly, c'est qu'il a son frère Mark, qui est aussi astronaute, mais qui pendant cette période est resté au sol.
D'accord.
Donc, deux jumeaux, deux génomes, et là, on va voir un petit peu comment ça se passe dans l'espace.
Alors, c'était en 2016. Alors, quel
alors, l'état de santé, l'état de santé, on va renommer tout de suite Scott Kelly, qui a fait plusieurs missions, hein, notamment c'est ce mal au pied, hein, ce mal au pied qui revient souvent au retour de l'espace, puisque on n'a plus les pieds sur Terre, sur le plancher des vaches, et lorsqu'on revient, il faut réhabituer au bout de 6 mois, marcher, reprendre la locomotion, et tout ça, il y en a plus ou moins chez les astronautes, notamment Scott Kelly a été très affecté par ceci. Thomas Pesquet en a parlé.
Oui,
au bout de quelques jours, il a repris la locomotion, on veut dire, plus facilement. Il faut dire qu'aussi Thomas Pesquet est plus jeune, Scott Kelly a 55 ans. Donc, par rapport à l'âge.
Un bon sportif aussi.
Ce sont tous des astronautes entraînés, des bons sportifs. Ouais. Voilà. Alors, il y a quelque chose chez les frères Kelly qui a été donné. C'est au niveau des chromosomes aussi. Des terminaisons des chromosomes qui sont analysées et qui se raccourcissent ou s'allongent dans l'espace et puis retournent. Donc, ça, c'est un suivi, mais d'appel à NASA, donc le rapport définitif sur l'état de santé des deux frères sera publié au cours du deuxième semestre 2017. Vous voyez, donc fin de vol 2016, il faut du temps avant que toutes les analyses soient faites et pour qu'on publie toutes les données techniques. Alors, il y aura la publication, au grand public, mais c'est surtout les chercheurs, scientifiques qui, eux, vont travailler là-dessus.
Bon, les jumeaux de l'espace, on y reviendra donc vraisemblablement dans une prochaine émission. Rappelons qu'ils ont volé en 2016.
Voilà.
Hein, et que ce sont des jumeaux américains.
Voilà.
Donc la mission Proxima et le travail de Thomas Pesquet continue. Donc c'est la troisième mi-temps, on peut dire. Un mot quand même sur une qui nous renvoie à l'espace, hein, une bonne transition, c'est qu'il avait avec lui une pierre de Mars.
Tout à fait. Donc une petite météorite martienne qui a été confiée par la Cité de l'espace à Toulouse à Thomas Pesquet. Et donc, qu'il a emmené dans l'espace pour sa mission Proxima et qu'il a ramené avec lui. Alors, Olivier Sanguy, donc, le journaliste, rédacteur en chef de la Cité de l'espace, lui a posé la question l'autre jour. Il a dit qu'elle était revenue dans ses bagages, mais que pour l'instant... Bagage personnel, un tout petit paquet. Voilà.
Dont la pierre de Mars.
Voilà. Donc,
comme quoi, c'est précieux.
Alors, cette pierre de Mars est revenue et elle sera de nouveau exposée à la Cité de l'espace. Et c'est une particularité, hein, d'avoir un objet de la Cité de l'espace qui vient de Mars, qui est retourné dans l'espace en orbite terrestre. Et qui sera de nouveau exposé. Je pense aussi au petit nounours qui est dans la capsule Soyouz à la Cité de l'espace, qui a volé avec Claudie Néré. Donc c'est toujours très intéressant.
Voilà, ça, les petits objets. Bon, puis Mars, c'est quand même un clin d'œil à un projet que Thomas aimerait bien réaliser, puisqu'il a dit et redit plusieurs fois, il est volontaire pour aller sur Mars si un
Alors,
jour
il,
on
il
peut y
aller. Seul,
hein, voilà, il n'est pas le seul.
Voilà. Mais bon, si un jour on peut y aller, oui.
Et il n'est que français, on peut dire aussi dans un contexte
financier. Ça compte aussi.
Financier, Alors, dans l'actualité du ciel et de l'espace, donc en mai début juin, on a une première, c'est la réutilisation d'une capsule Dragon, donc c'est SpaceX. Alors, on rappelle SpaceX, quelle
société
est cette
privée,
société privée américaine.
Par Elon Musk, il y a quelques années. Alors, au tout début, ses essais ont été un petit peu chaotiques et tout. Il y a même des agences spatiales qui, il faut le dire, rigolaient un petit peu de le voir faire. Et puis, grâce au travail technique des ingénieurs, il a récupéré aussi beaucoup d'ingénieurs de la NASA et il a fait ses preuves et aujourd'hui, ça marche.
Donc là, il récupère une capsule, donc effectivement, des économies pour la prochaine fois.
Alors, c'est la capsule Dragon.
Alors, capsule Dragon, c'est
qui ravitaille l'ISS.
Voilà,
la station spatiale.
Voilà. Qu'est-ce qui l'amène au passage? On rappelle alors, les matériels.
Alors, il y avait 1069 kilos d'équipement scientifique. Ouais. Alors, il faut vous dire qu'il y avait des souris dedans.
Alors, ça, c'est pas du matériel.
Ça, hein, voilà, des équipements scientifiques, donc des souris. Il y a 242 kilos d'équipement informatique, etc., de ravitaillement pour les astronautes. Vous voyez, on est à peu près pas loin de 2-3 tonnes de choses. Hein. Ouais. Alors, la particularité, c'est que si on a monté des souris, et on va les redescendre dans 2-3 mois.
C'était la question qui vous guettait,
voilà.
Jean-Michel.
Donc, hein, donc, des expériences qui sont faites par des universités américaines, donc pour voir sur ces souris comment se développent aussi certains nombres d'expériences dans l'espace.
Cobayes animaux complémentaires. Et le retour est prévu dans
Dans 3 mois. Hein. On n'a pas les dates, hein, donc, puisque cette capsule est arrivée le 3 juin à l'ISS après 41 heures de vol. Elle a été capturée par le bras robotique de la station. C'est l'Américain Jack Fisher qui a fait ça. Et la particularité, comme vous l'avez dit, c'est que cette capsule a volé en 2014 sous le nom de code CRS-4 et aujourd'hui c'était CRS-11. Puisque bien sûr, il a fallu rajouter les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires, après ils sont éjectés, ils sont... Donc la base de la capsule est réutilisée, mais il y a des composants qui sont rajoutés.
Donc l'actualité d'espace dans ce domaine, c'est la recherche d'économie.
Hein, tout à fait.
Lancer moins cher.
Oui.
Et on voit que ça progresse. SpaceX, est un peu le fer de lance américain dans ce domaine.
Première société privée, c'est une des premières et pionnière actuellement.
Absolument. Un nouveau lancement indien. Alors voilà, l'Inde est un pays spatial, on l'a souvent dit, la Chine, l'Inde, etc. Tout un ensemble de technologies entièrement indiennes ont permis ce lancement récent.
Alors, début juin, pour la première fois, l'Inde a lancé une nouvelle fusée qui n'utilise que des technologies localement conçues. C'est-à-dire que vraiment, l'Inde devient totalement autonome.
Autonome, maîtrise tous les savoir-faire pour aller dans l'espace.
Alors, ce lanceur, avec son nom de code GSL-5MK3, haut de 43 mètres, donc il est parti du pas de tir de Sriharikota, dans le sud-est du pays, donc l'une des deux bases de lancement des satellites de l'agence spatiale indienne, l'agence ISRO.
Voilà. Ça fait longtemps que ce lanceur est à l'étude.
Alors ça fait 20 ans, hein, les Indiens ont travaillé depuis 20 ans sur ce moteur et aujourd'hui il est au point et ils nous prouvent donc qu'ils sont capables, qu'ils sont totalement autonomes de lancer leur propre satellite. Alors avec un coût de projet qui est relativement bas puisque l'Inde annonce 73 millions de dollars, hein, soit moins que le budget par exemple d'un film hollywoodien de type Gravity.
Vos budgets. Voilà, autre événement, Ariane qui rattrape un peu son retard puisque les lancements avaient été retardés, donc le lancement 237 finalement qui était retardé.
Alors,
et bien.
Et le 79e lancement pour Ariane 5, hein, voilà, donc 10 865 kilos exactement.
Alors là c'est un peu plus cher que le film indien tout à l'heure, mais quelle efficacité.
Donc en orbite géostationnaire, donc avec deux satellites, hein, un conçu par Boeing, ViaSat-2, donc pour des télécoms sur l'Amérique du Nord et l'Europe, et bien sûr...
Un deuxième qui innove, puisque c'est un satellite... électrique.
Tout à fait. Donc Eutelsat 172B, donc télécom haute puissance, fabriqué par Airbus Defence and Space, donc qui mettra 4 mois pour atteindre l'orbite.
Alors, c'est le premier satellite entièrement électrique ?
C'est pas le premier, il y en a eu d'autres, il y a eu des essais, mais là, en orbite géostationnaire, c'est un des premiers, oui, qui va aller se placer là-haut.
Opérationnel.
Opérationnel. Oui. Hein. Donc, batterie lithium.
Alors, qu'est-ce que ça change, oui, justement, un
satellite ? Alors, pas de carburant, pas de cryogénique dedans, hein, pas oui. de carburant. Donc, batterie lithium, panneau solaire. Donc, du fait que ça va un petit peu moins vite, et c'est pour ça que ça mettra, au lieu de quelques semaines, ça mettra 4 mois pour atteindre son orbite. Ensuite, il y aura des petites poussées pour ajuster l'orbite. Donc, il y a 5 moteurs, hein, comme j'ai dit, conçus par Airbus, et donc moins 40% de masse. Et ça, c'est important. Hein. Alors, aujourd'hui, on voit qu'on va plus vite, plus rapide et moins cher. C'est D'accord. vraiment une des donnes dans tout le domaine du spatial.
Voilà, c'est le premier d'une future série.
Enfin, certainement.
Qu'est-ce qu'on annonce du côté de l'ESA, d'autres
Alors,
bientôt
Du côté de l'ESA, il y a énormément de projets, hein, on va dire, autour de la Terre, donc des satellites d'observation, notamment, je pense à tous ces réseaux Sentinel, le programme Copernicus, et puis aussi du côté des autres puissances, hein, et puis du côté de la recherche autour de la Lune, de Mars, etc.
Voilà, donc les lancements d'Ariane ont repris leur
Ils ont repris leur cours normal.
Leur cours normal, voilà. Donc le prochain est annoncé pour...
Alors, pour l'instant, on n'a pas les dates.
Viennent,
oui,
cas,
mois août, voilà. Et puis donc, il y a eu un petit peu de retard. Alors, il y a eu du retard, on va dire, sur les lancements prévus, mais beaucoup de retard chez les sous-traitants aussi.
Hein. Oui.
Donc ça aussi, il faut que ça
et
reparte.
Oui, oui, bien sûr, oui.
Il y a toute une ingénierie derrière qui suit.
Donc par rapport à SpaceX, Ariane, on rappelle que c'est pas la même, c'est pas dans la même famille. Hein, je veux dire, même la fusée, le lanceur indien.
Non, c'est moins lourd. Hein,
voilà.
Ariane, c'est du lourd.
Voilà. Tout à l'heure, on plaisantait sur le coût, sur le film, mais bon, rappelons quand même que ce qui coûte, c'est de lancer des masses importantes.
Voilà.
Et là, c'est le cas puisqu'il y a plusieurs tonnes.
Justement, si on arrive à baisser les masses, on aura besoin de lanceurs un petit peu plus petits qui consomment moins de carburant au départ.
Voilà, donc la recherche, l'innovation dans tous les domaines.
Hein. Oui.
Quatrième événement. Alors là, c'est Rocket Lab. C'est un petit lanceur. On parle de la fusée Electron. Alors,
voilà. Alors on est vraiment dans ce qu'on vient de dire, hein, dans la suite, puisque c'est une société privée, donc Rocket Lab, qui a construit une base en Nouvelle-Zélande, qui a fait un test la semaine dernière, un test d'essai, donc en lançant une petite charge non utilisable pour l'instant, je crois que c'était 225 kg, mais la base, ça sera de lancer des satellites en orbite basse, c'est-à-dire en dessous de 400 km, et 150 kg maximum. Donc ça intéresse beaucoup de monde, parce que petits satellites, petit lanceur et coût moins élevé. Et la particularité donc de ce lanceur Electron, c'est d'utiliser des technologies 3D, des matières composites, hein, dans le lanceur. Alors, réutilisable ou pas, je ne sais pas, mais bon, voilà, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'innovations.
Rocket Lab, Nouvelle-Zélande. Alors,
c'est une société américaine.
C'est une société américaine,
oui, mais
d'accord, privée.
Alors, privée.
C'est
voilà.
un deuxième SpaceX ou c'est un.
Eh bien, ça fait partie.
Il y
a certainement des ingénieurs
qui passent de l'un à l'autre.
Qui passent de l'un à l'autre, oui. Mais bon, c'est comme Orbital ATK, c'est comme toutes ces sociétés donc, qui foisonnent maintenant. Hein, voilà. Donc, il y avait aussi d'autres sociétés, hein, plus ou moins privées, sous licence russe-américaine, je pense au lancement Zénith, etc. Donc ça va foisonner. Hein, je crois
oui,
qu'il
ça va foisonner
attendre.
Parce qu'il y a une très grosse demande de petits satellites.
Il y a une demande. Hein.
Oui,
il y a une demande. Alors on a parlé de CubeSat, oui. Mais CubeSat, on va les lancer par exemple avec un cargo Cygnus, on va les lancer avec une capsule Dragon, mais effectivement...
C'est-à-dire qu'on va monter effectivement dans une orbite donnée, on va dire,
oui.
Et puis là, appelons ça le satellite, si vous voulez. Le satellite va ouvrir ses portes et va larguer comme
ça. On va lancer, voilà.
Comme le Summer SMC Grunblé.
Ça se passe donc du module Kibo sur la station spatiale dans l'ISS.
Voilà, ouais.
Mais ça pourra se lancer par des petits lanceurs.
Alors,
aussi.
Ces CubeSat, rappelons un petit peu quand même leur volume, leur forme.
Il y en a des tout petits. Alors, le CubeSat de base, c'est 10 cm de côté.
Voilà, c'est un petit transistor. Quoi.
Mais voyez, vous imaginez ce qu'aujourd'hui, la technologie qu'on a, comme je dis souvent, dans un téléphone portable, donc dans un cube de 10 cm de côté, avec des panneaux solaires en orbite basse, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup de données, du transfert numérique, de l'Internet, etc.
Voilà, personne ne s'occupe des déchets de l'espace. Il n'y a pas une société là qui...
Alors, les déchets, on s'en occupe...
Qui pourrait vivre sur la récupération des déchets, parce qu'ils commencent à devenir très nombreux.
Régulièrement, on s'occupe des déchets de l'espace, parce que les agences spatiales se réunissent chaque année pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on fait. fait, quelles sont les perspectives d'avenir. Mais là, ce que nous venons d'annoncer, ce sont les orbites basses. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en orbite basse, au bout de quelques mois, on va dire un temps relativement court, hein, ou une année, ou deux, suivant l'orbite, suivant l'injection, hein, ça va se consumer dans l'atmosphère et ça sera brûlé.
Naturellement, il y a toujours un peu de gravité.
Tout à fait, voilà. Il y a cette attraction.
Et donc, cette gravité attire petit à petit tout ce qui tourne, on va dire.
Toutes ces petites masses. Alors, je veux dire, brûler un satellite de 10 cm de côté qui a été lancé il y a un an ou un an et demi.
Quand on a vu le magma autour du bouclier thermique de Thomas
Pesquet, ça change complètement la donne.
Un petit transistor.
Et puis, ça veut dire qu'un soir, si vous assistez à un tel phénomène, vous vous dites, j'aurais vu une belle météorite.
Voilà. Bon, dans l'actualité, météore. Dans l'actualité du ciel, il y a eu aussi beaucoup d'autres. On s'est arrêté sur SpaceX, bien tenu, avec la réutilisation de cette capsule Dragon, un nouveau lancement indien avec l'arrivée quand même en force de l'Inde, Ariane qui rattrape son retard et qui lance un satellite électrique, et puis en fait cette petite Rocket Lab qui beaucoup de technologies, notamment 3D, c'est la première fois qu'on évoque ça dans Orion Chemin de l'espace, donc voilà, l'aventure continue. Alors Jean-Michel, avec les vacances qui s'annoncent, eh bien c'est aussi tout un programme de soirée que le groupe Orion organise et propose sur le site du BETS à Saint-Julien-Chapteuil. Donc, un mot sur ces soirées.
Alors, dès début juillet, donc, vous avez déjà sur le site www.orion43.fr, les dates sont en ligne. Donc, vous pouvez déjà, en fonction de vos vacances, de votre temps libre, projeter, pourquoi pas, une soirée à l'Observatoire du BETS. C'est pas loin du Puy, Saint-Julien-Chapteuil. C'est facile à trouver. Et là, dès 20h, donc, le groupe Orion, le grand groupe Orion, parce que nous sommes nombreux maintenant, donc, vous accueille pour vous faire partager toute la connaissance du ciel et de l'espace. Alors, nous reviendrons bien sûr sur toutes ces émissions que nous avons pu enregistrer sur RCF au cours de l'année. Vous invitez à regarder tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, mais ça ne reste pas là, puisque nous avons aussi la découverte des constellations.
Alors, on rappelle qu'un programme, une soirée ordinaire, c'est effectivement déjà le soleil en été est encore très présent à 20h. Donc, on peut observer le soleil au BETS.
Avec un matériel spécifique.
Voilà. On rappelle qu'il ne faut jamais regarder le soleil directement. Le groupe Orion propose effectivement des appareils pour le faire et on voit effectivement une activité parfois très tumultueuse sur notre étoile. Bon, ensuite il y a un certain nombre d'ateliers qui sont proposés pour comprendre la mécanique céleste, comment ça tourne, pourquoi les marées, pourquoi les phases de la Lune, etc.
Nous avons des petits outils, par exemple le Géorama.
Permet d'expliquer ça, de s'arrêter, de réfléchir ensemble.
Les cadrans solaires.
Il y a les cadrans solaires, absolument. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi les problèmes de densité. Combien je pèse sur la Lune ? Combien je pèse sur Mars ?
Les balances. Nous avons nos balances, puisqu'on peut voir son poids sur la Lune, sur le Soleil, si on peut y aller, sur Saturne. Et c'est toujours très, très attractif.
Voilà. On rappelle que le groupe Orion a aussi une section Orion Junior avec des jeunes qui nous montrent effectivement le travail qu'ils ont fait sur les maquettes.
Alors ils ont fait la maquette grandeur nature de l'ISS qu'ils ont présentée puisqu'ils ont eu un prix au Rotary Club, et donc cette maquette sera installée donc à l'Observatoire du BETS au cours de l'été, et les jeunes sont actuellement en train de travailler sur une conférence sur l'ISS pour vous parler comment ça se passe là-haut, comment vivent les hommes, et c'est très bien que ce soit des jeunes qui fassent ça.
Alors que vous soyez jeune ou que vous soyez un peu moins jeune, vous serez scotché quand même par la qualité de des prestations de ces jeunes ados, enfants, ados, etc. On rappelle que c'est des enfants qui vont de 8, 9 ans jusqu'à 16, 17 ans.
Voilà.
Et les anciens reviennent et encadrent les nouveaux.
Les anciens, petit à petit, voient que les jeunes progressent, donc ce qui nous permet de laisser la place pour le nouveau groupe Orion.
Voilà, beaucoup d'activités. Ils nous présentent également le système solaire, avoir un regard sur les distances importantes qui nous séparent. Entre les planètes. Ensuite, il y a deux conférences. Alors ça, c'est intéressant. Deux conférences à la même heure. Pourquoi deux conférences à la même heure ?
Alors,
pas l'une après l'autre.
Alors, la nuit tombe relativement tard, surtout au mois de juillet. Ouais. Donc en attendant, on va proposer au public deux conférences. Alors effectivement, on pourrait faire deux conférences, mais deux conférences à la suite, c'est long. Mmh. Hein. Et là, on a choisi donc de proposer au public en fonction s'il y a des enfants. Il y en a toujours une qui s'adresse un petit peu plus aux enfants.
Donc un peu plus accessible, on va
voilà.
dire.
Ouais. Hein, et donc on s'aperçoit aussi qu'au BETS, les familles viennent nombreuses au cours de l'été. Donc vous choisissez une des deux conférences qui vont durer 45, une heure au plus tard. Et là, dès la nuit tombée, on va pouvoir après passer aux observations.
Alors, ces conférences sont annoncées sur le site Orion.
Alors, elles ne sont pas encore en ligne.
Pas pour le moment, mais elles le seront très prochainement.
Voilà.
Donc, vous pouvez programmer votre
soirée. Il y a vraiment un choix très, très éclectique, hein, puisque ça va démarrer. Ça. Lorsqu'on verra Saturne cette année, donc effectivement, on fera une conférence sur Saturne, voir comment ça se passe sur Saturne et puis aller faire l'observation de Saturne. Je crois qu'il y a du lien. On a parlé de l'ISS. Il y aura des conférences sur plein de choses, sur l'espace,
ouais,
notamment.
J'ai noté sur les animaux dans l'espace.
Alors, voilà, ouais. C'est un sujet sur lequel, parce qu'on parle beaucoup des expériences humaines, donc du retour de Thomas Pesquet, on a parlé des frères Kelly tout à l'heure, mais au début, comment tout cela a commencé? On a fait quand même des choses sur lesquelles, par exemple, je pense à Laïka, où les Russes ont émis quelques regrets, mais bon, Laïka, il faut le dire, c'est pas le premier chien de l'espace.
Ouais.
Mais ça, pour...
Ben, donc, ça, on le réserve pour cette...
Voilà.
Donc voilà une conférence tout à fait intéressante, mais vous allez découvrir effectivement le programme dans quelques jours sur notre site et vous pouvez donc choisir cette soirée. Pour terminer une soirée, il y a ensuite effectivement l'observation.
Alors c'est une partie importante, surtout quand il fait très beau. Hein.
Voilà. Et puis l'observation avec des instruments, des télescopes, des lunettes, des jumelles.
Voilà. Alors connaître son ciel à l'œil nu, c'est déjà très bien, mais là on va vous montrer après les étoiles et tout ce qu'il y a autour des étoiles, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et là, c'est donc les outils que nous avons sur la plateforme du BETS qui vont vous permettre d'accéder au ciel profond.
Voilà, et avec les étoiles, c'est souvent beaucoup de poésie et de méditation qui sont aussi à la clé et à la fin Orion.
À chacun son rythme.
Voilà, donc nous rendez-vous au BETS. Et puis pour nous, Orion Chemin de l'Espace, rendez-vous en septembre.
On se met un petit peu en vacances, voilà.
Et à vous tous, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Voilà, bonnes vacances.
5, 4, 3. 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.